cours de théologie mystique par le Père Philippe, Saint Joseph, le 19 décembre 84.
Nous allons continuer dans Saint Jean. Après le lavement des pieds et Jésus qui révèle qui est le traître, nous avons ce petit passage que nous avons vu du reste, où Jésus montre comment il vit ce mystère de la trahison. C'est très important pour nous. Humainement parlant, c'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre, une trahison. C'est révoltant, parce que ça brise l'amour. Jésus vit ce mystère de la trahison en proclamant « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Donc, il est affirmé dans ces deux versets, 5 fois, l'aspect de la glorification. Je crois que dans tout l'évangile de Saint Jean, c'est le moment où est affirmé avec la plus grande intensité le mystère de la glorification. Ce n'est pas laissé au hasard, ça. C'est pour nous faire comprendre comment le mystère de la trahison de Judas est vécu dans cette victoire de l'amour. Qu'est-ce qui lutte le plus contre l'amour? C'est la trahison. Et c'est elle qui met la plus grande blessure dans le cœur de l'ami. Et Jésus nous fait comprendre comment son amour qu'il a pour le Père et l'amour que le Père a pour lui est victorieux de cette trahison. Donc comment l'amour divin est victorieux de la trahison. C'est la grande victoire de l'amour qui nous est montrée là. Et c'est pour ça que Jésus emploie ces expressions si fortes. Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme et Dieu a été glorifié en lui. C'est la victoire de l'amour par rapport à la trahison. Jésus, en acceptant la trahison, en l'acceptant par amour, se met au-delà de l'opposition normale qu'on reçoit quand on est trahi, se met dans un plan divin et dans un regard tout à fait nouveau pour nous faire comprendre comment Dieu se sert de toutes les conséquences du péché pour se communiquer davantage. La conséquence la plus terrible du péché, c'est la trahison. Parce que c'est ce qui s'oppose le plus à l'amour. Par la trahison, notre cœur d'ami meurt. C'est une mort dans l'ordre de l'amitié, la trahison. Et Jésus se sert de cela pour montrer jusqu'où va la victoire de l'amour. Jusqu'où va la victoire de l'amour divin. L'amour divin se sert de la trahison pour permettre justement cette espèce d'épanouissement du Fils de l'homme, l'épanouissement du cœur de Jésus. voyez, c'est la blessure du cœur de Jésus qui est glorifiée à l'intérieur même de cette blessure. La blessure ne disparaît pas, mais la blessure est transformée du dedans par l'amour. Petits enfants, pour peu de temps encore, je suis avec vous. Alors, on va commencer maintenant, on peut dire, le second moment de l'initiative du Christ. Petits enfants, pour peu de temps encore, je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où moi je m'en vais, vous, vous ne me verrez plus. Et c'est très curieux que Jésus, en parlant des apôtres, dit « comme je l'ai dit aux Juifs hein, ». Comme s'il considère justement les apôtres comme ses intimes et ne font plus partie, d'une certaine manière, du peuple juif. Ils sont attirés par le Christ. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où moi je m'en vais, vous, vous ne pouvez venir. Et là, ils sont également comme les Juifs, ils ne peuvent pas suivre Jésus. À vous aussi, je le dis à présent. Alors, c'est aussi très significatif, ça. Jésus dit ça pour éveiller un dernier mouvement d'amour. Quand on dit à quelqu'un qu'on est sur le point de partir et sur le point de le quitter, on réanime en lui toute sa capacité d'aimer, tout son potentiel d'amour. Et c'est bien ce que fait Jésus ici. « Petits enfants, pour peu de temps encore, je suis avec vous. » Jésus, après l'annonce du traître, ils n'ont pas très bien compris, mais il y a eu quand même quelque chose, il y a eu quand même un émoi. Jésus les reprend, en quelque sorte, autour de lui. Il les reprend en montrant cette annonce immédiate de sa séparation. Où moi je m'en vais, vous, vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau. Alors, ce commandement nouveau est donné après le départ de Judas. Ce commandement nouveau est donné vraiment comme l'action de grâce du mystère de l'Eucharistie. Si Judas était présent à la consécration de la scène, il n'en a pas vécu. Et donc, il ne peut pas recevoir le fruit du mystère de l'Eucharistie. Et le fruit du mystère de l'Eucharistie, c'est une exigence nouvelle dans l'ordre de l'amour et de l'amour fraternel. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Donc ce commandement nouveau ne regarde que la charité fraternelle. D'habitude, le commandement de la charité fraternelle est toujours lié au commandement d'amour à l'égard de Dieu. Alors pourquoi ce commandement nouveau est donné ici de cette manière particulière qu'il ne regarde que la charité fraternelle? On peut se poser la question. Regardez dans saint Matthieu. Vous voyez que le commandement nouveau, c'est-à-dire aimer ses frères, est relié à l'amour à l'égard de Dieu. Et ce commandement nouveau est donné très vite dans la vie apostolique de Jésus. Il est donné au moment où Jésus proclame les béatitudes. Donc c'est tout à fait au début, et ça fait partie de la charte de la vie chrétienne. Dans l'évangile de Jean, le commandement nouveau est donné au terme de la vie apostolique de Jésus. Et il est donné, selon cette expression très forte vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus montre que la charité fraternelle doit avoir comme modèle l'amour du Christ sur nous, l'amour du Christ sur ceux que nous devons aimer de charité fraternelle. Et donc, d'une certaine manière, la charité fraternelle n'a pas de limite. Jésus a aimé ses disciples jusqu'à leur donner sa chair en nourriture. Et c'est après avoir donné sa chair en nourriture que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors, « comme je vous ai aimé » se réfère donc à cet acte ultime et dernier d'amour où Jésus se donne lui-même en nourriture. Il faut aimer ses frères jusqu'à devenir le pain vivant de ses frères. Il faut aimer ses frères à la suite du Christ jusqu'à être tout entier relatif à eux. C'est bien ça qui nous est dit, puisqu'il faut les aimer à la manière du Christ qui se donne en nourriture, qui se donne comme pain et comme vin, et donc qui se donne en étant totalement en référence, puisque c'est le propre de l'aliment, d'être tout entier relatif au vivant. Et Jésus se donne sous ce symbolisme du pain et sous ce symbolisme du vin, pour nous faire comprendre combien il se donne totalement, sans rien se réserver. Et donc Jésus nous fait comprendre que la charité fraternelle doit aller jusque-là. Nous n'avons rien à garder pour nous. Il faut qu'on puisse être entièrement relatif à son frère, comme Jésus lui-même se donne à nous comme pain et comme vin. Ne rien garder pour soi. Je crois que c'est ça qui est montré avant tout. C'est le dépassement complet de tout égocentrisme, de tout égoïsme. L'égoïsme lutte directement contre la charité fraternelle et empêche d'aimer vraiment ses frères. Le véritable amour de charité fraternelle implique donc ce don total de tout nous-mêmes à ceux que la Providence met proche de nous, comme étant le prochain. Alors, pourquoi Jésus donne-t-il ce précepte sous cette forme nouvelle que saint Jean nous donne ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez qu'il y a là, après l'Eucharistie, et je dis bien après l'Eucharistie, comme une manière beaucoup plus explicite de nous faire comprendre l'absolu de la charité fraternelle. Et je crois que c'est pour ça que ça nous est donné dans ces circonstances, après l'institution de la scène, et ça nous est donné pour que nous puissions nous-mêmes en vivre. Si le précepte de charité fraternelle est relié au précepte d'amour à l'égard de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, aimer le prochain comme nous-mêmes. Le précepte de charité fraternelle apparaît toujours comme second. Et c'est vrai. Saint Thomas, en théologien, quand il essaie d'exprimer justement ce mystère de la charité fraternelle, montre que la charité fraternelle est second. Il y a un ordre dans la charité. Et cet ordre dans la charité consiste à aimer en premier lieu Dieu et de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Et nous devenons la mesure de l'amour du prochain. C'est très beau, c'est très très grand. Mais vous voyez qu'il y a une manière encore plus profonde d'entrer dans ce mystère. C'est d'insister sur ce mystère pris en lui-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour de la charité fraternelle alors apparaît en premier lieu comme le précepte d'amour par excellence. Et pour bien nous faire comprendre que c'est le précepte d'amour par excellence, c'est Jésus et non plus nous qui est la mesure de notre amour. Alors là, il peut paraître en premier lieu dans le cœur de Jésus, et c'est peut-être cela qui nous est montré et qui nous fait saisir justement le précepte de la charité fraternelle, j'allais dire d'une manière mystique, et non plus uniquement en théologie scientifique. En théologie scientifique, c'est très net. Saint Thomas, dans son traité de la charité, montre l'ordre de la charité. Dieu, notre âme, le prochain. C'est propre de la théologie scientifique d'essayer de saisir cet ordre. Je dis bien l'âme, parce que saint Thomas se pose la question, aimer son corps. Et saint Thomas nous dit qu'il faut aimer le prochain plus que son propre corps. C'est pour ça que dans certaines occasions, on doit nécessairement accepter la mort pour sauver la vie de son prochain. Pas le corps de son prochain, mais la vie divine. Parce que dans la charité fraternelle, dans cet ordre de la caritas, de l'agapé, c'est évidemment l'amour divin qui... Et donc, je dois être capable d'offrir ma vie pour le salut du prochain. Ça, c'est l'ordre de la charité. Mais je dois m'aimer moi-même d'un amour qui est premier par rapport à l'amour du prochain. Ceci, c'est l'ordre de la charité tel qu'on peut le donner en théologie scientifique. En théologie mystique, je regarde la charité dans le cœur de Jésus. Donc c'est à l'intérieur du mystère du cœur du Christ que je saisis cet ordre de la charité. C'est le propre de la théologie mystique. La théologie mystique ne regarde pas la charité en elle-même, mais la regarde dans le Christ et en Marie. Donc liée à la personne du Christ. La charité dans le cœur de Jésus. L'amour dans le cœur du Christ. C'est un amour filial à l'égard du Père. Jésus aime le Père d'un amour filial qui saisit tout son cœur. Il y a une plénitude d'amour. Et il y a un amour qui est quasi infini, comme dit saint Thomas. Quasi infini, puisque la plénitude de la charité dans le Christ, la plénitude de la grâce dans le Christ, elle est infinie, pas au-dessus. Elle est la mesure de toute charité. Elle est la mesure de toute la grâce. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Ce qui montre bien que la plénitude de la charité qui est dans le cœur de Christ est la mesure de toute charité. Donc, cet amour que Jésus a pour le Père, il va se transmettre vis-à-vis de Marie. C'est le même amour substantiel, ici on doit dire un amour substantiel, c'est le même amour substantiel qui porte Jésus vers le Père et qui porte le cœur de Jésus vers Marie. Ce sont deux exercices différents d'amour, mais c'est le même amour. C'est le même amour substantiel, ça qui est extraordinaire, qui fait que Jésus aime Marie pour le Père, et dans le Père, et il l'aime dans l'amour même qu'il a pour le Père. Et c'est cet amour qui se prolonge sur Marie. Donc, dans une perspective mystique, je veux faire comprendre ce que c'est que la charité fraternelle. Pour faire comprendre ce que je sais que la charité fraternelle, je dois montrer qu'il y a le même absolu. Je ne regarde plus l'ordre, mais je regarde le même absolu. Il y a un même absolu dans l'amour à l'égard de Dieu que dans l'amour à l'égard du prochain. S'il y a le même absolu, je peux donc dire « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Puisque l'amour à l'égard du prochain n'est pas seulement ordonné, c'est-à-dire il vient en second lieu ou en troisième lieu, l'amour à l'égard du prochain est vraiment un absolu. Qui dit un absolu dit quelque chose de premier. Et donc, cette charité fraternelle peut s'exprimer comme un absolu, comme ce qui polarise toutes mes énergies divines. Aimer le prochain de façon vraie, c'est l'aimer avec tout l'absolu que j'ai pour Dieu, avec tout l'absolu de l'amour que j'ai pour Dieu. Et à ce moment-là, alors, on comprend comment Jésus devient la mesure même de cette charité fraternelle. Ça devient la mesure même. Tout l'absolu qu'il y a dans le cœur de Jésus devient l'absolu de ma charité fraternelle. C'est pas une autre doctrine, c'est la même doctrine, mais c'est deux aspects différents sur lesquels j'insiste. Là, j'insiste sur l'ordre de la charité, l'aspect de l'intelligibilité qu'il y a dans les divers exercices de la charité. De l'autre côté, au contraire, j'appuie sur le point de vue de la finalité. Or, c'est à l'égard du prochain que je vais le mieux comprendre comment cet amour que j'ai pour Dieu va s'étendre sur le prochain, tout en gardant son même caractère substantiel, tout en gardant son même absolu. Et donc, au plan mystique, je comprends très bien comment Jésus peut dire « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et même, il ne pouvait pas exprimer autrement l'absolu de la charité fraternelle que de cette façon. Parce que de cette manière, il montre bien que aimer le prochain, c'est le même amour que d'aimer Dieu. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de si fort, et que c'est vraiment ce qui caractérise la vie chrétienne. C'est vraiment ce qui caractérise la vie chrétienne. C'est cette charité fraternelle dont il s'agit de s'aimer à l'intérieur même de l'amour du Christ. Alors, comme c'est donné juste après l'institution de l'Eucharistie, je peux dire que Jésus, à la fois, nous fait comprendre le modèle de cette charité. Et il nous fait comprendre la réalisation de cette charité. Le modèle de cette charité, c'est l'amour que Jésus a pour nous. Nous devons nous aimer comme Jésus nous aime, du même amour et de la même qualité d'amour. Et en même temps, nous comprenons que l'Eucharistie nous permet de réaliser cet amour. Puisque l'Eucharistie nous est donnée, c'est le cœur de Jésus qui nous est donné. Et c'est le cœur de Jésus qui transforme notre cœur en le sien. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand je reçois l'Eucharistie, je peux dire ça en toute vérité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, c'est notre cœur humain qui est totalement transformé dans le cœur du Christ. Et donc, nous comprenons qu'à ce moment-là, pour nous faire comprendre cette totale transformation qui se réalise par l'Eucharistie, Jésus donne ce nouveau précepte qui exprime ce dont nous sommes capables. Si notre cœur n'était pas complètement transformé dans le cœur du Christ, nous ne serions pas capables de vivre de ce précepte. Mais ce précepte nous est donné pour que nous comprenions que le cœur de Jésus a transformé complètement notre cœur. Donc vous voyez les deux aspects qui sont impliqués dans ce nouveau précepte, qui sont l'un et l'autre liés à l'Eucharistie. Il nous montre comment et jusqu'où Jésus nous aime, et il nous fait comprendre comment nous pouvons aimer comme Jésus nous aime. Le modèle et la réalisation. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors Jésus complète en montrant l'importance de l'exercice de cette charité fraternelle. Dans la mesure même où nous exerçons la charité fraternelle à la manière dont le Christ nous demande, c'est-à-dire nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Dans cette même mesure, nous pouvons dire que nous devenons les témoins vivants de la présence du Christ. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, on devient d'une façon visible disciple du Christ. On est donc témoin d'une façon particulière d'être des disciples du Christ. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pas par la parole, c'est par l'exercice même de la charité fraternelle. L'exercice même de la charité fraternelle montre que nous sommes disciples du Christ, c'est-à-dire que nous sommes un avec lui et que nous vivons ce que lui-même vit. Et que ce qu'il nous a donné comme ultime commandement, c'est-à-dire le don de son corps et de son sang comme nourriture, nous essayons nous-mêmes de le vivre. Et c'est bien vrai cela. Vous voyez l'exhortation de Paul VI, 10 ans après le concile, nous fait comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'exercice de la charité fraternelle qui doit être premier. En ce sens-là, vous voyez, il montre bien que le concile, c'est le concile de la charité fraternelle. Parce que ça doit être premier. Et à partir de là, nous permettons le message et la communication de la parole. La parole divine n'est communicable dans notre monde d'aujourd'hui que dans la mesure où nous avons assaini le terrain. Et nous assainissons le terrain par l'exercice de la charité fraternelle. Et prenez l'analogie des vieux moines qui s'installaient dans des endroits qui n'étaient pas particulièrement de bons endroits. Vous l'avez, les fièvres paludiennes, il y avait des moustiques particulièrement dangereux. Eh bien, les moines s'installaient là, les dombes. C'est bien ça, les dombes. Maintenant, évidemment, c'est salubre, mais de ce temps. La vie monastique s'est installée là. Eh bien, je crois que c'est très significatif, ça. La vie chrétienne, dans notre monde d'aujourd'hui, donne un témoignage de la présence de Jésus au milieu de nous par la charité fraternelle. C'est en ce sens-là que des petites communautés sont nécessaires pour l'évangélisation. Si on écoutait ce que le Saint-Père nous a dit, Paul VI, il faut des petites communautés. Autrement, on ne peut plus communiquer la parole de Dieu. Il faut d'abord le témoignage vivant. Et le témoignage vivant de la charité fraternelle. Si ce témoignage vivant de la charité fraternelle n'existe pas, on ne peut pas. C'est ce que me disait un directeur d'un grand collège auprès de Paris. Il me disait ça il y a encore pas très longtemps, il y a 3 mois, même pas, peut-être 2 mois. Il me disait, ce n'est plus suffisant dans nos grands collèges des aumôniers qui passent et qui donnent un cours. Ce n'est plus suffisant. Vous voyez, il y a une fièvre paludienne qui est trop forte. Il faut des communautés qui demeurent et qui prient pour donner un témoignage vivant de la charité fraternelle dans la prière et dans la prière commune. C'est quelqu'un qui a une grande expérience de ce que représente une grosse boîte de 2000. Il me dit, si on continue comme ça, dans 2 ou 3 ans, ces grands collèges seront entièrement laïcisés. Et nous ne ferons plus ce que nous devons faire, c'est-à-dire faire que ces communautés, ces lieux où on dit aux parents qu'on donne un enseignement chrétien, soient vraiment des lieux où on donne un enseignement chrétien. J'ai trouvé ça très très beau, c'est exactement l'application de ce que Paul VI dit. Et lui, il ressentait de l'intérieur en disant, si il n'y a pas une petite communauté priante dans la charité fraternelle qui assume la charge spirituelle d'un collège comme celui dont il me parlait, dans 2 ans, il n'y aura plus rien. Et là, il faisait allusion directement en disant, n'est-ce pas un des rôles importants de la communauté Saint-Jean de pouvoir s'installer pour donner ce témoignage de prière au point de vue communautaire pour à partir de là enseigner. Mais si on a uniquement des prêtres qui viennent enseigner et qui viennent de l'extérieur et qui ne donnent pas ce témoignage, ça ne portera plus. Parce qu'il dit, déjà depuis quelques années, je vois que ça glisse, ça glisse, ça glisse, le témoignage ne porte plus. Il faut donc reprendre à la racine, recréer une communauté chrétienne. Et donc, recréer une communauté chrétienne, il faut un petit noyau. S'il n'y a pas un petit noyau, on ne peut pas créer une communauté chrétienne. Et c'est en recréant une communauté chrétienne à la racine qu'on peut donner l'enseignement. C'est ça l'importance du commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que ça ne peut se manifester qu'à l'intérieur d'une petite communauté. Ça ne peut pas se manifester autrement. Ce sont des communautés qui peuvent exprimer cela et qui montrent de cette manière la présence de Jésus. Vous avez ce que disait Huysmans à propos d'une grosse communauté de bénédictines à Paris. Il disait, chaque fois que je passe près de cette communauté, je pense qu'il y a là des femmes qui vivent ensemble. Je crois qu'elles vivent sans trop se disputer, sans trop se tirer sur le chignon. C'est pour moi le signe le plus net de la divinité de l'Église. Alors, c'est pas seulement que les femmes, il y a aussi les hommes. Hein. Et c'est vrai. C'est le signe le plus fort de la présence de Jésus dans son Église. Des communautés qui essaient de vivre dans la charité fraternelle. Qui essaient d'être unis par l'aspect positif. Parce que c'est ça la charité fraternelle. Se regarder comme le Christ nous regarde et nous aimer comme le Christ nous aime. Or, le Christ nous regarde dans ce qu'il y a en nous de plus positif. Jésus ne regarde pas en premier lieu les réalisations. Il regarde en premier lieu ce qu'il y a de meilleur dans notre cœur, ce qu'il y a de meilleur dans notre intelligence. C'est ça qu'il regarde en premier lieu. Le prophète Samuel le dit bien. C'est ça qu'il regarde en premier lieu. Eh bien, dans la charité fraternelle, nous devons arriver à nous aimer les uns les autres en regardant dans nos frères ce qu'il y a de positif en eux, ce qu'il y a de meilleur en eux. Et nous nous aimons de cette manière, et non pas en regardant d'abord l'aspect négatif. Parce que si on regarde d'abord l'aspect négatif, on ne pourra pas exercer une vraie charité fraternelle. Pour exercer une vraie charité fraternelle à l'égard de ses frères, il faut voir en eux ce que Jésus voit. Et regarder en eux ce que Jésus regarde. Alors on les aime et on se porte les uns les autres. Et en se portant les uns les autres et en coopérant de cette manière, on donne un témoignage de la présence de Jésus. Et donnant ce témoignage de la présence de Jésus, on peut ensuite communiquer la parole. Mais on ne peut pas communiquer la parole avant. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors, comme c'est important, ça, vous comprenez. Jésus dit ça immédiatement après l'institution de l'Eucharistie. Donc, le fruit propre du mystère de l'Eucharistie, c'est la charité fraternelle. Comme sainte Thérèse avait raison de dire, pour voir si nos oraisons étaient des oraisons divines et non pas uniquement un repliement sur soi, c'est de voir si la charité fraternelle augmente et s'intensifie. Si la charité fraternelle augmente et s'intensifie, cela montre que nos oraisons sont divines. L'Eucharistie est source de notre charité fraternelle. Et l'Eucharistie est là pour nous aider à en vivre et pour nous en donner la mesure. Alors, dans le regard du Christ, vous voyez, si l'institution de l'Eucharistie est vraiment le testament, autour de ce mystère, il y a le lavement des pieds, la nuée, pour nous faire comprendre la miséricorde et le pardon. Et ce qui jaillit de ce mystère de l'Eucharistie, c'est la charité fraternelle. Dans un amour qui doit aller toujours plus loin les uns par rapport aux autres. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où t'en vas-tu? C'est la seule chose que Simon Pierre a retenue. C'est pas étonnant. C'est très très joli ça. Simon Pierre était alerté. Pour peu de temps encore, je suis avec vous. Vous me chercherez, comme je l'ai dit aux Juifs, où moi je m'en vais, vous, vous ne pouvez venir. Pour Simon Pierre, c'est la chose la plus tragique, ça. Il saisit tout de suite cet aspect négatif de l'absence de Jésus. Seigneur, où t'en vas-tu ? Jésus répondit, « Où je m'en vais, maintenant tu ne peux pas me suivre. Tu me suivras plus tard. » Ça, c'est très très rude à entendre pour un cœur généreux comme Simon. C'est comme si Jésus lui refusait quelque chose. C'est comme si Jésus refusait à sa générosité d'aller jusqu'au bout, suivre l'agneau partout où il va. Très important pour nous, ça, puisque c'est quand même un tout petit peu ce que nous essayons de faire, suivre l'agneau partout où il va, et d'entendre Jésus dire, où je m'en vais maintenant, tu ne peux pas me suivre. Donc suivre l'agneau partout où il va, attention, il y a un moment où c'est impossible. Je lis, donc, où je m'en vais maintenant, tu ne peux pas me suivre, tu me suivras plus tard. Dans l'ordre de l'amour, le plus tard n'a aucun intérêt, c'est le maintenant. Et ça, c'est très net. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre à présent ? C'est ça qui importe. C'est ça la générosité, ça brûle le temps, ça doit être immédiate. je livrerai ma vie pour toi. Il est dans un état de ferveur qui consiste à dire que tout ce que nous sommes, toute notre vie est donnée à Jésus. Et Pierre le dit. Et il le vit, ça. Et il pose la question, pourquoi ne puis-je te suivre à présent ? Jésus répondit, tu livrerais ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Ça, c'est aussi la correction de Jésus à l'égard de Pierre. Jésus corrige, je ne dis pas son imprudence, Jésus corrige sa trop grande générosité humaine, qui est trop humaine. J'allais dire la spontanéité de sa générosité. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Immédiatement, tout de suite. Et alors, Jésus les corrige là où il y a la faiblesse. Leur faiblesse, c'est cette générosité trop sensible, cette générosité trop humaine. Tu livrerais ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Jésus l'avertit pour que Pierre soit plus attentif. Donc Jésus le corrige là, mais le corrige avec amour pour fortifier son cœur et pour l'empêcher de se laisser aller à cette espèce de générosité trop humaine. Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Et Jésus prend le petit signe, le coq. Alors, rappelez-vous ce que Peggy dit sur le coq. Et c'est bien, c'est vrai, Jésus prend ce signe naturel, parce que le coq annonce le matin, hein, c'est le chant du coq. Très tôt, la nuit ne passera pas que tu m'aies renié trois fois. La nuit ne passera pas. La nuit, qui est le temps des épreuves et des luttes. La nuit, qui doit être réservée à la prière. Et dans l'obéissance, elle est réservée aussi au sommeil. Dans l'obéissance, elle est réservée au sommeil. Autrement, la nuit, c'est le temps des luttes. Et parce que c'est le temps des luttes, ça doit être le temps aussi de la prière. Pierre aurait dû prier pour ne pas succomber. Puisque Jésus le prévient, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Pierre compte trop sur sa générosité humaine. Il est sûr que sa générosité humaine suffit. Et c'est pour ça que Jésus montre cela. Jésus veut faire comprendre à Pierre et à tous ceux qui sont avec lui qu'il va y avoir durant la nuit un grand mystère où je m'en vais maintenant tu ne peux pas me suivre. Donc Jésus montre qu'il y aura là comme un abîme qui va se creuser. Ne pas pouvoir le suivre, c'est à cause de cet abîme. Parce que la grâce ne sera pas donnée pour le suivre jusqu'au bout. Et Jésus veut faire comprendre par là la pauvreté de l'être humain, son incapacité de rester lié à l'agneau jusqu'au bout. Il faut qu'il fasse l'épreuve de sa fragilité. Il faut qu'il fasse l'épreuve de sa pauvreté. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'il fasse cette épreuve. Et ce n'est qu'après que Jésus peut se donner pleinement. C'est donc comme une espèce de purification que Jésus donne à Pierre pour lui montrer les limites même de sa générosité. Alors qu'il croirait que cette générosité peut lui donner une fidélité absolue. La fidélité n'est pas de l'ordre de la générosité. Distinguons toujours bien générosité et charité. La charité, elle, est fidèle. La générosité ne l'est pas. Parce que la générosité est d'ordre humain, d'ordre sensible et humain, d'ordre passionnel. Très bon d'être généreux, il faut l'être, mais il faut dépasser la générosité. Parce que la générosité, elle n'a qu'un temps. La générosité ne va pas jusqu'au bout. C'est la charité. Il disait très très généreux. Vous savez, au début, c'est d'une ferveur extraordinaire, c'est merveilleux. On a l'impression qu'il brûlerait toutes les étapes. Ils veulent brûler toutes les étapes, hein, tellement ils sont généreux. Alors pour les autres, c'est très bien, mais pas pour moi, c'est pas la peine. Je suis généreux. Alors on brûle toutes les étapes. Et puis, il y a un dégonflement de la générosité. Et le dégonflement de la générosité, c'est justement lorsque nous ne sentons plus rien. Tant qu'on sent quelque chose, on est généreux. Et puis à un moment donné, on ne sent plus rien. Alors il faut à ce moment-là changer de la générosité à la charité divine. Alors nous voulons aimer et nous voulons aller jusqu'au bout dans l'ordre de l'amour. C'est-à-dire que dans la générosité, il n'y a pas besoin de vouloir, hein. C'est le feu qui brûle et qui brûle toute la forêt, et ça brûle très bien, et ça brûle au galop. La générosité, très bien si Dieu nous la donne, mais la générosité demande d'être dépassée dans la charité. Je crois que c'est exactement ça, ce petit dialogue entre Jésus et Simon-Pierre, hein, à un moment particulièrement important, et au moment précis où Jésus réclame la charité fraternelle. Et Pierre le télescope. Ça arrive. Des gens très généreux n'entendent plus rien au commandement de l'amour. Ils sont tellement généreux, ça ne les regarde pas. C'est pas pour eux. Parce qu'ils pensent que la générosité suffit. Alors, il faut bien situer exactement le point de vue de la générosité et de la charité divine. L'agapé. La charité divine, elle est d'ordre divin, elle est d'ordre surnaturel, et elle implique la volonté. C'est une volonté d'aimer. C'est pour ça que ça demande des efforts quotidiens. C'est une volonté d'aimer. Tandis que la générosité, c'est passionnel. C'est très très beau, c'est magnifique de voir quelqu'un de généreux. On a toujours envie de dire, pourvu que ça dure. Hein. C'est ça qu'on a envie de dire. Hein. C'est très très bien. faites attention, mais placez-vous à un autre niveau. C'est le passage du niveau passionnel au niveau volontaire. C'est le passage d'un amour sensible à un amour divin. Et c'est pas commode. Alors, je comprends très bien que Jésus dit Saint-Pierre. Pour chacun d'entre nous, Jésus a dit ça avec des tonalités différentes. Mais au fond, il a dit ça. Et pour chacun d'entre nous, le coq a chanté pour nous rappeler que nous avions fait 3 fois des bêtises. 3 fois nous avons été en contradiction avec ce qu'il y avait de plus généreux en nous. Nous avons été en contradiction avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre générosité. Et le coq est fait pour nous rappeler ça. C'est un signe que Dieu donne. Alors le coq, vous voyez, c'est l'ordre naturel. C'est l'ordre naturel. Quelque chose qui reste toujours au milieu des plus grands bouleversements. J'ai déjà cité ce passage que disait Malraux, que je trouve si beau. Quand Malraux disait, à propos justement, dans la lutte de la guerre, et quand il était pilote, et qu'il disait, après avoir bombardé, on remontait, et on rencontrait ces oiseaux migrateurs. Qui suivait toujours la même route, sans rien dévier. On avait tout brisé, et la nature demeurait. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue. C'est tout à fait différent, mais c'est quelque chose d'analogue. C'est l'ordre naturel. Le coq qui chante, il ne savait pas que Pierre avait renié 3 fois. Absolument pas. Mais c'est pour Pierre le signal d'un ordre naturel dont Jésus se sert, c'est ça qui est magnifique. Dont Jésus se sert. Il se sert de cet ordre naturel pour nous rappeler nos limites. Pour nous rappeler nos défaillances, pour nous rappeler nos manques de fidélité. Alors c'est le signe qui est donné, cela, pour que nous puissions être attentifs et aller jusqu'au bout. Alors après, nous entrons dans le chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas.